rencontre sur Radio Orient.
Vous êtes bien sur Radio Orient. Après le mouvement des enseignants, jeudi dernier, des syndicats appellent à nouveau à la grève. Ce jeudi, rencontre avec le secrétaire général de la FSU, Benoît Test, qui au cours de cet entretien reviendra également sur la question de l'inclusion des élèves en situation de handicap. Entretien avec le secrétaire général de la FSU, Benoît Test.
On estime quand même avoir été en partie entendu, c'est-à-dire que au soir du 13 janvier, avec une grève très forte, on a eu un changement de ton, on a été reçu par le Premier ministre, ce qui est quand même la marque du fait que on considère que le ministre de l'Éducation nationale n'est pas forcément un très bon interlocuteur. Il a beaucoup méprisé les organisations syndicales et c'est vrai que pour nous c'était quelque chose d'important d'en référer au gouvernement dans son ensemble et au Premier ministre en particulier. On a eu quelques réponses et sous la pression, on a eu des réponses en termes d'acheminement du matériel plus rapide, des masques, des capteurs de CO2 qui sont censés arriver. On a eu quelques réponses aussi sur les recrutements, parce que nous, depuis le début de la crise, on dit qu'on ne peut pas faire face à une telle épidémie, à de telles difficultés, sans recrutement supplémentaire, qu'on est démunis, que les enseignants qui sont malades parce que l'épidémie a beaucoup circulé dans les écoles, en plus, ça entraîne des difficultés pour les enseignants présents, parce que comme il y a des absents, il faut accueillir les élèves, les parents, on est sous la pression des parents et qui sont complètement légitimes dans leurs inquiétudes, qui demandent est-ce qu'ils peuvent mettre leurs enfants, pas leurs enfants, comment on fait quand une classe est fermée, etc. Et donc on a eu quelques réponses. Mais évidemment, on pense qu'il faut maintenir la pression dans ces cas-là, d'abord parce que ce sont des réponses partielles. On n'a pas eu de réponse sur un véritable protocole applicable dans les faits. On demandait justement à ce qu'il y ait plutôt une doctrine de fermeture des classes. Alors, on demandait au départ que ce soit dès le premier cas positif qu'il y ait une fermeture de classe. Évidemment, dans une période où l'épidémie circule beaucoup, on aurait pu accepter qu'on dise s'il y a 2-3 cas par classe, ou une doctrine en tout cas qui prévoit ça, on ferme la classe. Mais là, on va rester avec un protocole extrêmement compliqué, beaucoup plus compliqué à gérer. Bien sûr, ça fait pas plaisir de fermer une classe, mais aujourd'hui, ce qui se passe dans les écoles, c'est que il y a à peine la moitié des élèves souvent qui viennent dans la classe, puisque quand il y a 2-3 cas, d'autres sont cas contact, d'autres sont en attente de test, donc ils reviennent pas tout de suite, et puis il y en a d'autres qui repartent entre-temps. Donc c'est absolument ingérable, c'est-à-dire que vous avez des classes où vous avez à peu près la moitié des élèves, du coup la moitié des élèves que vous prenez, qui sont pas les mêmes du jour sur le lendemain, vous avez du mal à leur faire faire un suivi pédagogique véritable, ceux qui sont à la maison encore moins, parce que vous pouvez pas assurer les deux, vous pouvez pas assurer la présence en classe et l'enseignement à distance. Donc pour nous, ça c'est pas gérable et du coup là on n'a pas eu de réponse. Et puis au-delà de ça, nous on pense que au-delà des questions sanitaires, la grève de jeudi, elle a posé des questions de fond sur la reconnaissance des métiers. La question sanitaire, ça n'est qu'un détonateur quelque part de toutes les problématiques de conditions de travail et problématiques salariales. Ça revenait beaucoup dans les cortèges le 13 janvier. On considère qu'on est mal rémunéré et donc nous on entend maintenir la pression là-dessus et en disant il faut des gestes immédiats et beaucoup plus forts que le peu de revalorisation qu'il y a eu à travers le Grenelle de l'éducation et donc c'est tout ça qu'on entend dire. Alors sur le 20 janvier, là sur jeudi, nous on appelle à des actions, toutes les actions qui seront envisageables, qui seront visibles, qui seront possibles. Dans certains départements, on appelle à la grève formellement. Dans d'autres, ça pourra être d'autres actions. Il y aura probablement pas jeudi prochain un mouvement de l'ampleur du 13 janvier. Parce que l'idée, c'est pas d'abord parce que l'intersyndicale a pas été complètement d'accord sur cette modalité d'action. Donc le risque, ce serait de refaire un truc moins important. Mais par contre, l'idée, c'est bien de maintenir la pression, de faire qu'il y ait aussi en plus des grèves, des rassemblements le soir avec les parents, des actions médiatiques. Ce qu'on veut aussi, c'est faire le lien avec la journée qui aura lieu le 27 janvier, qui sera une journée interprofessionnelle, c'est-à-dire le public et le privé, donc pas seulement l'éducation, mais qui parlera salaire, qui mettra en avant la question des salaires. Et nous, on essaye de faire en sorte que le monde de l'éducation se retrouve dans cette action le 27 janvier, soit très largement visible au milieu des salariés, du public, du privé, au milieu de tous les salariés, pour reposer cette question salariale à l'échelle de l'ensemble de la fonction publique notamment, et avec, pour nous, la revendication principale de revalorisation du point d'indice de la fonction publique qui est gelée depuis le début du quinquennat et même avant. Donc voilà, on essaie de maintenir la pression en s'appuyant sur la très forte mobilisation du 13 janvier. Le 20 janvier, il faut pas s'attendre à un mouvement identique au 13 janvier. Je crois que le 13 janvier, c'était vraiment une grève ras-le-bol. Il y a beaucoup d'enseignants qui se sont mobilisés en disant on en a ras-le-bol du protocole inapplicable, de la crise sanitaire qui nous met en difficulté, et en plus dans un contexte où on est mal payé, où on est méprisé, vraiment ça suffit. Donc il y a eu vraiment un coup d'alerte ou un coup de semonce, je sais pas comment on peut le dire, mais vraiment un côté on tape du poing sur la table, et ce à quoi on appelle nous, c'est à maintenir cette pression là jusqu'au 27 janvier, c'est-à-dire arriver à déboucher aussi sur la question salaire et la poser de manière forte et la plus visible possible. Donc voilà, en gros, un peu, c'est parfois un peu compliqué à suivre, on l'admet, hein, parce que l'intersyndicale n'a pas forcément bien fonctionné après le 13 janvier. Il y a des organisations qui n'ont pas voulu continuer sous les mêmes formes. Donc jeudi, ce ne sera pas le grand mouvement qu'on a connu jeudi dernier.
Et vous l'avez souligné, cela concerne l'ensemble des métiers liés à l'éducation et cela ne se limite pas donc au corps enseignant.
Exactement, hein, et jeudi 13 janvier, c'était impressionnant de voir les inspecteurs, les chefs d'établissement, tous ces personnels qui font très peu souvent grève, hein, les cadres de l'éducation nationale qui étaient eux aussi très mobilisés. Donc on voit que c'est vraiment le monde de l'éducation qui souffre de cette situation et qui a envie de dire aussi nous on veut faire notre boulot, c'est pas l'idée, on n'est jamais content de rien, au contraire, hein, si on est mobilisé, c'est aussi parce qu'on aime notre métier, qu'on veut le faire correctement. On avait aussi beaucoup d'infirmières scolaires parce que elles sont quand même aussi en première ligne, hein, face à l'épidémie, peu de moyens également d'accueillir les élèves, d'éduquer aux gestes barrières, de faire en sorte que justement elles prennent toute leur place pour dans la lutte contre l'épidémie. On avait des assistantes sociales, on avait les personnels administratifs, on avait beaucoup de personnels territoriaux, hein, les ATSEM dans les écoles et les agents d'entretien dans les établissements du second degré étaient très mobilisés aussi. Parce qu'ils voient bien que l'école est désorganisée et que eux, ils ont après à bosser dans des conditions extrêmement compliquées, hein, quand il y a des protocoles complexes où il faut respecter le sens de circulation des élèves, où il faut faire respecter le port du masque, où il faut désinfecter davantage les salles de classe, etc., etc. Sans moyens supplémentaires, là aussi, c'est absolument impossible. Et avec beaucoup de personnel absent, parce que justement, on n'est pas suffisamment bien sécurisé dans les établissements scolaires et dans les écoles, c'est extrêmement compliqué de continuer à travailler dans ces conditions. Voilà, il y a des lycées, des collèges, des écoles où il y a une grande partie des agents qui sont malades, et ceux qui sont là, il faudrait leur faire reposer sur eux la totalité du boulot d'entretien, de désinfection, de respect des sens de circulation pour les élèves, etc. C'est infaisable, voilà. Et donc c'était aussi ce cri qui a besoin d'être dit, qui a été en toute petite partie entendu. On insiste quand même, hein, c'est pas c'était un mouvement qui a été pris en compte, et ça c'est plutôt à mettre à notre actif. On est content aussi quand même que la mobilisation ait pu payer, Mais on continue parce que les questions de fond sont évidemment pas réglées pour l'éducation.
Benoît Teste, vous êtes le secrétaire général de la FSU. La question de l'inclusion est bien entendu une question qui vous concerne en tant que responsable syndical. Vous souhaitez que cette question soit l'un des sujets mis au cœur de la campagne présidentielle. Et comment vous avez accueilli justement les propos du candidat Éric Zemmour qui a dénoncé l'obsession de l'inclusion, selon son terme?
Bah, les propos sont terribles parce que dire que l'inclusion est une obsession alors qu'elle est un objectif pour nous et du coup la présenter sous un jour négatif et prétendre que ce serait une idéologie quasiment, hein, l'inclusion serait une obsession, un mantra, quelque chose de purement idéologique alors qu'il s'agit simplement de permettre à tous les enfants d'avoir la même éducation et d'être dans la même école, et y compris physiquement, ça doit être un objectif. Évidemment que après nous, on a travaillé la question et qu'il y a des situations de handicap qui nécessitent une prise en charge dans des établissements spécialisés. Ça, on n'a jamais nié cet élément-là. Il y a des établissements spécialisés, il y a des classes spécialisées. Mais l'objectif, ça doit rester de mettre au plus possible les enfants dans la même école. Il faut que les valides voient et soient ensemble et des camarades handicapés. De même qu'il faut que les petits et les enfants handicapés voient qu'ils sont dans la même école, exactement avec les mêmes chances, avec les mêmes enseignants, les mêmes personnels, et qui soient aidés en cela, donc d'où l'importance aussi de la mission des AESH, hein, qui est vraiment centrale dans cette réflexion-là. Et donc l'inclusion, ça doit être un objectif, parce que l'école, c'est l'école pour tous, c'est l'école qui démocratise les enseignements, et tout le monde doit y avoir accès. Donc c'est vraiment scandaleux de présenter ça comme une idéologie régressive, justement, hein, à l'inverse vraiment de l'objectif humaniste et progressiste. Après, nous, on a des solutions, en tout cas on a des propositions pour faire en sorte que les enfants en situation de handicap soient accueillis dans des bonnes conditions. Et donc effectivement, l'inclusion, c'est au plus possible et comme on le peut, selon nous. Et parfois, il faut des classes spécialisées. Il y a des situations de handicap qui nécessitent aussi d'avoir des établissements médicalisés. Voilà, parce que il y a des handicaps lourds et les handicaps lourds aussi ont besoin d'une éducation de qualité. Et parfois, ça peut pas se faire en classe ordinaire. Ça peut pas toujours se faire dans des établissements généraux et dans des établissements ordinaires, mais il faut malgré tout garder cet objectif et développer aussi les classes spécialisées et les établissements spécialisés. Voilà, on essaie, nous, de tenir ces équilibres-là. Évidemment que après, je trouve en plus que, bon, Éric Zemmour, il s'appuie sur un sentiment ou une idée reçue et même un ressenti, et donc il est très démagogique en cela, qui voudrait que avoir un enfant, je sais pas, par exemple un enfant autiste dans une classe, ça perturbe le reste de la classe. Eh ben non, justement, il faut donner toutes les conditions pour que un enfant autiste il puisse avoir accès à la classe ordinaire. Ça veut dire lui donner un AESH qui le suive véritablement, pour pas effectivement que ça repose sur l'enseignant qui doit gérer un enfant autiste, plus un enfant sourd, plus un enfant qui a un autre handicap et qui est démuni face à ça. Parce qu'effectivement, dans certaines situations où les élèves n'ont pas d'AESH, où les élèves n'ont pas de suivi, ça retombe sur l'enseignant et donc il a des difficultés, ça nuit à ses conditions de travail et ça nuit aux conditions de la classe, tout simplement. Mais la question, il ne faut pas la prendre par ce bout-là, il faut la prendre par le bout. Donnons des AESH, suivons les enfants pour permettre à la classe de fonctionner. Et après, évidemment, si c'est vraiment pas possible, si les handicaps sont trop lourds Et si le suivi est pas possible et que c'est pas bon, même pas pour l'enfant, évidemment qu'il y a des classes spécialisées, des établissements médicalisés, encore une fois, qui sont nécessaires et qui sont absolument pas mis en cause quand on dit inclusion. C'est pas le tout inclusion au sens où on met absolument tout le monde de force, même quand ça fonctionne pas. Si ça fonctionne pas et il faut voir toutes les bonnes solutions, évidemment qu'il faut aussi des établissements spécialisés.
Mais c'est un objectif qu'on serait possible, c'est ce que vous dites.
Voilà. Voilà, c'est une violence terrible de dire les handicapés, pas avec les valides, parce que ça retarde la classe, quoi, en gros. Et ce discours-là, il est terrible, il est vraiment destructeur, et on le combat, évidemment, par des propositions concrètes et à notre avis, beaucoup plus solides, en plus que simplement des déclarations comme ça, démagogiques, qui s'appuient sur des représentations qui sont inexactes.
Et c'est un thème qui devrait être au cœur de la campagne présidentielle. Des millions de personnes en France sont touchées par le handicap. Il faut que ce sujet soit davantage mis en lumière.
Bien sûr, parce que la place qu'on fait au handicap dit beaucoup de la société qu'on construit. C'est une société d'inclusion, pour reprendre le terme que nous assumons et que nous défendons, et qui n'est pas une idéologie, ou une société d'exclusion, une société finalement où on discrimine, où on stigmatise, où on montre du doigt, et où c'est la compétition finalement hein, de tous contre tous, où ceux qui sont valides, ceux qui ont les bonnes relations, les bonnes adresses, les bonnes qui viennent des bonnes familles réussissent, et finalement il faut que rien n'entrave leur réussite. Et que tous les autres, ceux qui sont pas assez bons, pas assez valides, pas assez ceci, pas assez cela, seraient des handicaps, des freins. Voilà, on est dans une société assez effrayante qui est proposée, et un projet de société qui est aussi très dur finalement, hein, où il s'agit de dire qu'il y a que les meilleurs qui ont droit à la réussite. Nous, on pense qu'on peut construire une école, une société qui fasse sa place à tout le monde, et c'est pas être naïf ou être idéaliste que de dire ça, c'est simplement un choix de société qu'on défend aussi en tant que professionnel de l'éducation, parce qu'on voit bien que non seulement c'est souhaitable d'inclure tout le monde, mais en plus c'est possible, très franchement, même avec les difficultés qu'on a, l'inclusion, notamment en matière de handicap. Si on s'en donne les moyens, s'il y a des AESH, s'il y a un suivi, si on donne au personnel les moyens de suivre, c'est possible. Voilà, et c'est le message aussi qu'on veut faire passer.
C'était le secrétaire général de la FSU, Benoît Test. Fin de cette émission Rencontre. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.